Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 11 octobre 2018. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, on est une équipe réduite du jeudi matin. Yvan, bonjour Yvan.
Bonjour Marie.
Et Maurice Bolduc, qui est en régie.
Bonjour.
Bonjour Maurice. Alors on salue Monique, notre collègue, qui est quelque part au Portugal. Mm-hmm. On l'envie un petit peu ce matin, mm-hmm. Oui. Alors Yvan, de quoi tu nous parles ce matin?
Du Portugal. Je vous parle de randonnée.
En première partie ou d'émission.
Première partie, oui, de randonnée un peu différente pour découvrir l'automne, mais des choses qu'on n'est pas habitué de voir ou d'expérimenter. Mm-hmm. Et en deuxième morceau de la première partie, je vous parle des patinoires bleu-blanc-bouge. Ça, j'en ai déjà parlé. Oui. C'est les patinoires que le Canadien de Montréal a installées dans différents quartiers. Mais il y a déjà quelqu'un qui a fait une étude sur les répercussions de ces patinoires-là.
L'impact. Ouais. Oui. Ah, c'est intéressant.
Non, l'impact, c'est une équipe de football soccer. C'est le Canadien.
Et j'imagine que tu veux savoir de quoi je vais te parler aussi.
Oui, c'est ça.
Alors, moi, je vais vous parler d'activité physique des jeunes. Tu vas être fier, tu vas être content, Yvan.
Oui.
Et de son importance dans la réussite scolaire des jeunes. Alors, voilà, on commence. Alors, Yvan, des activités qu'on peut faire à l'extérieur, mais plutôt insolites?
Peut-être un peu insolites
ou
différentes, disons. C'est dans le magazine Espace, un magazine que j'utilise beaucoup. Ça a été écrit par l'équipe du magazine et c'est sous le titre « 7 nouveautés pour mieux apprécier l'automne ». Je vais vous parler de 5 de ces nouveautés-là.
OK.
Je commence dans les cantons de l'Est. C'est un parc qui est devenu régional près de Mégantic. Ça a été inauguré en 2016. Ça s'appelle le parc du marécage des Scots. Scots, c'est S-C-O-T-S, comme Scotland, j'imagine,
ouais.
Ou écossais, ou je ne sais pas quoi.
Ouais.
A obtenu cet été le statut officiel de parc régional. Ça va permettre la mise en valeur de ces 33 km² qui comprendra des aménagements propices à la pratique du vélo, de la randonnée pédestre et d'activités nautiques. Le parc compte déjà une piste multifonctionnelle de 8,3 km en forêt qui se prolonge sur 4,5 km dans le parc national du Mont-Mégantic qui est tout juste contigu, qui est voisin, mm-hmm. ainsi que deux courts sentiers donnant accès à des points de vue aux abords du ruisseau MacLeod. Alors ça, c'est un premier arrêt. Après ça, je vous amène toujours dans les cantons de l'Est, du côté de Eastman,
oui.
qu'on connaît pour son théâtre d'été, il me semble. Théâtre de Marjolaine, c'est dans ce coin-là, il me semble.
Eastman, en tout cas.
OK. Alors, allons à Eastman. Il y a un nouveau parcours sensoriel qui a vu le jour au cours de l'été, aménagé dans le parc Missisquoi Nord. Cet itinéraire est jalonné de petites balises installées le long du sentier du Vieux Verger. Elles invitent les randonneurs à toucher, sentir, regarder et entendre ce qui se trouve autour d'eux pour, en guillemets, reprendre contact avec la nature et éveiller leur sens. C'est une découverte à faire.
Oui, j'aimerais ça, moi, aller là.
Oui?
Oui.
OK. On met ça sur la liste. On s'en va du côté de Chaudière-Appalaches et là, je vous parle de quelque chose qui s'appelle une goutte d'eau dans une mer de roulotte. C'est originaire de France et déjà présente au parc national Fundy au Nouveau-Brunswick. La goutte d'eau, ça s'écrit D'O, accent circonflexe,
mm-hmm.
forme une drôle de structure semi-sphérique et oblongue, perchée sur pilotis, vraiment comme une goutte.
Comme une goutte, la même forme.
Oui, qui peut loger une famille de 4 personnes, dont 2 enfants. Là, je ne pense pas que les enfants peuvent beaucoup courir, mais
non, le...
si je me fie à la
le
photo que je
loger.
Vois là, oui, c'est vraiment logé.
Ouais.
C'est à Montmagny, dans le camping de la Pointe aux Oies. C'est le premier site québécois à s'en être procuré un exemplaire, qu'on peut d'ores et déjà réserver. Installé dans le secteur des yourtes et, ouais. des, sites dans le, et des sites pour tentes du camping, elle offre une vue sur le fleuve, mais aussi sur les roulottes et autocaravanes voisines.
Je pense que j'aimerais mieux la vue sur le fleuve.
C'est comme ça. Ça coûte 85 $ la nuit, si ça vous tente.
Hmm.
Ensuite, toujours dans Chaudière-Appalaches, le mont Adstock, qui est maintenant ouvert à l'année. C'est un mont qui est surtout connu pour ses activités hivernales et sa station de ski alpin. Le mont Adstock dispose désormais de deux sentiers pédestres balisés en forêt qui permettent de gagner son sommet en toute période de l'année, totalisant 3,6 km. Ces sentiers, d'anciens parcours abandonnés récemment retapés, sont également reliés au chemin de Saint-Jacques, le Compostelle des Appalaches. Puis là, je commence à trouver qu'il y a l'air à avoir des compostelles un petit peu partout
Oui,
au
Compostelle
Québec.
nous envahit.
Oui, on l'a vécu aux îles de la Madeleine dernièrement. C'était vraiment, vraiment très bien, là,
Ouais.
malgré l'ironie qu'on vient de faire. Mais c'est un thème qui revient maintenant. Et pour terminer cette petite
Parcours.
intervention, je vous amène en Outaouais, dans la région de Montebello, pour dormir avec les loups. Qui n'a jamais rêvé d'observer les loups dans un environnement naturel, de voir les petits jouer à se mordiller et d'entendre leurs hurlements sous le reflet de la lune?
Ben, ça dépend dans quelle position on est, là.
Oui, c'est ça. Le parc Omega, dans la région de Montebello, propose désormais une nuitée insolite dans un nouveau chalet vitré au plus près de la meute. Jeu de louveteaux, puis là je parle pas des scouts. Jeu de louveteaux, comportement de domination, communication sociale. Les loups étant habituellement difficiles à observer car très craintifs, il devient dès lors passionnant de les voir interagir en meute. Pour ce faire, cette nouvelle cabane des loups offre un observatoire original, confortable et à 100% sécuritaire pour les contempler, les étudier et apprendre à les connaître, et ce, depuis le sofa en journée ou le lit en soirée. Tout équipée, elle peut loger jusqu'à 4 personnes dans un beau chalet vitré qui donne davantage l'impression d'être observée par les canidés que d'être leur observateur. Une terrasse adjacente au chalet est aussi protégée par une aire vitrée, permet de passer un 5 à 7 au plus près de la meute. Cette expérience, rare et spectaculaire, a toutefois un coût élevé, 439 $ la nuit pour 4 personnes. Le prix à payer, on l'imagine, pour passer une soirée privilégiée avec l'une des espèces les plus fascinantes de la vie sauvage.
Fascinant, c'est le mot est juste.
Oui, hein?
Oui.
Alors, c'était 5 de 7 nouveautés pour mieux apprécier l'automne dans le magazine Espace de septembre 2018.
Merci. Alors, question. Comment soutenir l'activité physique de votre enfant pour l'aider à réussir à l'école?
On lui donne du chocolat le matin.
Je ne crois pas. Alors, je vous présente ce texte qui a été publié sur le site Participe Action le 11 septembre dernier. Il n'y a pas d'auteur spécifié, mais ça m'a intéressé puis je me suis dit que ça t'intéresserait, toi aussi, Yvan. Alors, je vous présente la première partie, dans un premier temps, de ce texte. L'activité physique est importante pour s'assurer que les enfants et les jeunes vivent leur vie au meilleur de leurs possibilités et en meilleure santé. Parce que les enfants passent leur temps dans la journée. Je vais recommencer ça, il manque un mot. Parce que comment les enfants passent leur temps dans la journée, ça a un impact sur d'autres comportements comme la durée de leur sommeil. Et il est important donc de penser à tous les comportements liés au mouvement comme étant complémentaires et dépendants et non isolés les uns des autres. Donc, pour une santé optimale, nous devons faire suer, bouger, dormir et s'asseoir les enfants à juste dose. J'aimais ça, cette phrase-là. Selon les directives canadiennes en matière de mouvement, sur 24 heures, les enfants et les jeunes qui ont entre 5 et 17 ans devraient faire chaque jour 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée.
Ça doit être minimum, probablement.
Ouais, ben là,
60 minutes minimum.
minimum. Et n'oublions pas le sommeil, donc de 9 à 11 heures par nuit pour ceux qui ont de 5 à 13 ans et de 8 à 10 heures par nuit pour les 14-17 ans. Et on ajoute les comportements sédentaires qui ont, une limite de 2 heures, qui devraient avoir une limite de 2 heures par jour de temps d'écran récréatif. Et on a demandé donc à un expert, le docteur Marc Tremblay, ce que les parents peuvent faire pour soutenir la réussite scolaire de leur enfant à travers l'activité physique. Les recherches démontrent qu'il y a une relation positive entre l'activité physique et la réussite scolaire chez les enfants et les jeunes. Il y a plusieurs processus cérébraux qui permettent aux élèves d'être meilleurs et plus efficaces, comme la concentration, la mémoire, les souvenirs, qui sont développés grâce à l'activité physique. De façon générale, les enfants et les jeunes qui sont actifs réussissent mieux dans leurs études. On sait également que l'activité physique peut réellement changer la structure et le fonctionnement du cerveau. Les recherches démontrent que le volume des parties du cerveau dédiées à la mémoire, à la concentration et à l'attention des enfants et des jeunes qui font de l'activité physique est plus grand. L'activité physique aide les enfants et les jeunes à mieux apprendre, à résoudre des problèmes de façon plus créative et à développer un cerveau en meilleure santé. Et on a demandé au Dr Tremblay qu'est-ce qu'il en est de la santé mentale. Il répond « La vie peut être stressante ». Et ça, c'est un constat qu'on fait tous.
On ne s'ostine pas contre ça.
Non, c'est ça. Heureusement, l'activité physique peut aider les enfants et les jeunes qui sont démoralisés ou stressés en contribuant à leur bien-être mental et émotionnel. Encourager les enfants à être actifs chaque jour, dans la classe et à l'extérieur, ça peut les aider à améliorer leur résilience quand ils vivent des situations stressantes et à développer leur estime de soi et leur confiance en soi. D'autres recherches préliminaires montrent que la participation à des activités d'intensité plus élevée, comme la course, la natation ou le vélo, ça peut, ça, augmenter la production d'hormones qui nous font se sentir bien, comme les endorphines, et les neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine.
Mais oui.
Alors, dans quelques minutes après la chanson, je vous présenterai les conseils et toujours du Dr Marc Tremblay et les gestes concrets que les parents peuvent poser pour soutenir leurs enfants. Voilà.
Les souvenirs sont bien souvent de vieux amis qui nous appellent. Quand on est triste, on les entend. Ils ont des voix tellement belles. Celui qui tourne autour de moi est un reflet des beaux dimanches, éparpillés dans les sous-bois où l'amour pleut en avalanche. Je me souviens d'un air d'accordéon qui traîne partout. Ces quatre mains en terre, un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote, et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête. J'ai dans mon cœur la voix d'une chanson qui parle tout haut de ma jeunesse. Mais les beaux jours n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ils m'ont laissé au dernier rang, et mon amour quitte à la ronde. Comme ils sont loin les souvenirs, les tours de valse et l'espérance. On pleure un peu et pour finir, tout cela tient dans des romances. Je me souviens d'un qui traîne partout ses quatre notes, un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote, et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête. J'ai dans mon cœur la voix d'une chanson. jeunesse.
Zaza Fournier, un air d'accordéon.
Merci Maurice. Alors, la suite de cet article...
On retourne jouer dehors.
On retourne jouer dehors, notamment, oui. Et ce, donc, on voit comment faire comme parents pour soutenir l'activité physique des enfants, puis parce qu'on sait que ça peut les aider à réussir à l'école. On met l'accent maintenant sur le fait que 17 % des enfants au Canada, près de 17 % des enfants au Canada vivent avec une limitation neurologique, comme le TDAH, les troubles du spectre de l'autisme ou la paralysie cérébrale.
Mon Dieu, c'est énorme. C'est
oui, c'est quand même
un
beaucoup,
enfant
hein.
sur cinq.
Oui, effectivement. Dans les classes, ça paraît. Le docteur Mark Tremblay, qui a été consulté dans cet article-là, croit que les parents devraient aussi mettre l'accent sur la participation à des activités physiques pour ce groupe de jeunes. D'après lui, ils ont beaucoup à gagner d'une participation à des activités physiques puisque celle-ci peut mener à des améliorations de la fonction motrice, de la mémoire, de l'attention et du bien-être mental. On en a parlé tout à l'heure. En plus, l'activité physique avec des pairs ou des camarades de classe peut aider à améliorer l'intégration sociale, qui peut être un important défi pour aider les enfants qui ont une limitation neurologique. Être actif ou participer à des sports, ça offre l'opportunité à ces enfants d'améliorer leurs habiletés d'interaction et de communication. C'est pas négligeable. Et il nous donne quelques conseils, particulièrement donc qui s'adressent aux parents en terminant. Faites-les jouer dehors. Lorsqu'ils sont à l'extérieur, les enfants ont tendance à passer plus de temps à bouger et moins de temps en position sédentaire. C'est une bonne pause d'écran et ça développe aussi leur confiance et leurs habiletés de prise de décision. Ensuite, il dit qu'il faut que ça soit amusant et varié. Si votre enfant perd son intérêt, sa motivation pour continuer à participer aura tendance à diminuer. Il nous dit « Soyez actifs en famille, faites de l'activité physique une priorité à la maison et soyez vous-même un modèle de comportement actif pour vos enfants. Privilégiez le développement des habiletés motrices fondamentales de vos enfants comme courir, donner des coups de pied, attraper, lancer pour créer une passion durable pour un mode de vie actif. Les enfants qui ont bien développé leur littératie physique, alors c'est tout ce qui tourne autour de l'activité physique, ont tendance à être plus actifs. Donnez-leur des directives et des messages positifs, particulièrement quand ils essaient quelque chose de nouveau. C'est pas grave s'ils réussissent pas à lancer du premier coup. Le but, c'est de les orienter, de les aider à apporter les changements nécessaires, développer leurs habiletés actuelles, tout en rendant le processus amusant. Encouragez-les à participer à différents sports, plutôt qu'à se spécialiser dans un seul sport. Ça aidera les enfants à apprécier les différents types de mouvements sans avoir peur des blessures liées à la surutilisation ou à l'épuisement. Et finalement, dernier conseil, pensez à parler de l'activité physique dont votre enfant a besoin avec son enseignant. Selon vous, dites-lui ou partagez ça. Pourquoi est-ce que c'est important que votre enfant soit actif à l'école? Et parlez-lui de ce qui va bien à la maison. Alors, on peut trouver ce texte-là sur le site Participation et c'est daté du 11 septembre. Alors, Yvan, les patinoires bleu, blanc, rouge, c'est pas en France.
Non, c'est pas. Ça m'étonnerait, en tout cas. Mais avant d'aller dans les patinoires, j'ai fait hier de la numératie physique.
Bon.
Oui. Ben, tu le sais, je m'occupe d'un jeune garçon. Je ouais. l'aide dans son parcours scolaire.
Oui.
Puis, on est allé faire de la balançoire hier. Puis, on a appris la table des sept en même temps. Fait que je le savais pas. Je faisais de la numératie physique.
Ben oui.
Donc, soyons sérieux, c'est un article que j'ai trouvé, c'est dans un spécial pour les Canadiens de Montréal, c'était dans la presse. Alors, c'est un petit peu, c'est un article qui vante pas mal les Canadiens de Montréal.
On est chauvin ici.
On est un peu chauvin, mais je fais le lien par contre avec les deux articles que tu viens de lire et tu vas voir qu'il y a vraiment quelque chose, il y a des retombées intéressantes. Donc, ça s'appelle « Les patinoires des Canadiens, un impact impressionnant ». C'est un texte de Dan Braverman. qui est traduit par Guillaume Ouimet dans le spécial pour le Canadien de Montréal dans la presse du 7 octobre. Il y a déjà 10 ans depuis que la Fondation des Canadiens pour l'enfance a lancé le programme Bleu, Blanc, Bouge. Et je le prononce toujours lentement parce que j'ai de la difficulté à ne pas dire Bleu, Blanc, Rouge. C'est Bleu, Blanc, Bouge. Avec 10 patinoires extérieures et réfrigérées dans les environs de Montréal et ailleurs au Québec. Il est clair que l'initiative a eu un impact considérable sur la communauté. Mais de quel type d'impact on parle? Il y a quelqu'un qui a décidé de mesurer l'impact.
D'étudier ça.
Oui, vraiment. Il s'appelle Jean-François Laflamme. C'est un ancien étudiant à la maîtrise en kinésiologie à l'Université de Montréal qui a décidé de se lancer dans les livres et sur la glace pour trouver la réponse. Et il a fait ce travail-là sous la supervision de la professeure au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, Suzanne Laberge. Alors, M. Laflamme a procédé à l'étude du programme d'accompagnement Bleu, Blanc, Bouge en action. Donc, il y a plus que juste faire des patinoires, il y a aussi un encadrement qui est proposé. Ce programme-là est présenté par une compagnie de vente de produits de tout ordre, dont des produits pour l'auto du Canada. Là, j'en ai dit déjà beaucoup. Je t'ose même dire le nom de la compagnie maintenant, hein? Canadian Tire.
Ah oui.
Qui donne aux enfants l'opportunité de prendre part à des leçons de patinage sur les différentes patinoires bleu, blanc, bouge ou BBB. Et il a réalisé d'impressionnantes découvertes. Premièrement, en ce qui est probablement le plus encourageant, le programme a rejoint des enfants qui n'avaient peu ou pas d'expérience de patinage et qui n'en auraient peut-être jamais eu. N'eût été de bleu, blanc, bouge. De tous les participants questionnés dans 6 patinoires communautaires, à Saint-Michel, Montréal-Nord, La Salle, NDG, Longueuil et Verdun, il y en a le 3/4 d'entre eux qui n'avaient pas ou très peu d'habilité de patinage. Et ça, ce chiffre-là, ça inclut 86 % des participants de Montréal-Nord.
Ben oui, c'est bon.
Puis on parle de communauté ethnique, là, c'est aussi un facteur d'intégration. Ils l'ont pas mis dans leur étude, je devrais leur en parler. Les chercheurs ont également recueilli des données en observant 2 groupes à 2 patinoires différentes, celle à Montréal-Nord et à Verdun, à 4 occasions pour chaque groupe. Et ils ont été en mesure de recueillir des données leur permettant de comparer le programme Bleu, Blanc, Bouge en action à un programme similaire d'activité physique aux États-Unis, afin de voir comment s'en sortait l'initiative de la Fondation. À ce chapitre, le programme était structuré pour permettre 15 % plus d'activité physique que le programme américain CATCH, ce que M. Laflamme a caractérisé de résultats très positifs pour l'initiative. Le programme était fait sur mesure pour connaître du succès. Lorsque physiquement impliqués dans les éducatifs, les enfants qui ne possédaient pas d'habileté de patinage ont complété leurs exercices à 78 % au total. Puis ça inclut un succès majeur. 85 % des enfants à Verdun étaient capables de faire tous les éducatifs, même si au départ, il n'y avait pas d'expérience de patinage.
C'est énorme.
Puis je fais le lien avec le gain de confiance en soi, les petites victoires qui vont aider par la suite dans d'autres domaines. À Ville-la-Salle, le jeune Afourlabi Agbon Tafara, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, a été capable de faire le saut dans le hockey en grande partie en raison du programme Bleu, Blanc, Bouge et est rapidement passé d'un niveau joueur à capitaine de son équipe, les Cougars de La Salle, dans le niveau Atombe. Là, on ne parle pas d'un grand niveau de performance, mais pour le petit garçon, c'est vraiment une belle progression. Son ancienne enseignante, Annie Gravel, donne crédit à la Fondation et à ses programmes pour les succès de Agbon Tafara. Ils l'ont aidé beaucoup. Malheureusement, il n'a pas les ressources pour faire tous les sports. Le hockey est un sport fort dispendieux. Mais la Fondation est derrière lui. Ils se sont occupés de son équipement et des frais d'inscription lors des 3 dernières années, ce qui a beaucoup aidé ses parents. Pour Geneviève Paquette, la directrice générale de la Fondation et vice-présidente des engagements communautaires des Canadiens, la découverte de Laflamme et Laberge viennent confirmer les bienfaits de plusieurs années de planification et de travail acharné. C'est une belle tape dans le dos pour toute l'équipe de la Fondation. Ça veut dire que le programme rencontre ses objectifs, dans certains cas peut-être, et qu'il les dépasse. Les gens travaillent tellement fort sur une base quotidienne, autant pour récolter les fonds pour créer ces programmes-là que pour définir la meilleure façon d'amener les jeunes à adopter l'activité physique dans leur quotidien. Puis là, on espère que le réchauffement climatique ne va pas massacrer toutes ces patinoires-là, même si c'est des patinoires réfrigérées. Mais, tu sais, réfrigérées en plein mois de juin, je ne pense pas que ça fasse grand-chose. Alors, c'était un article que j'ai trouvé dans le cahier spécial sur les Canadiens de Montréal. Ça s'appelle « Les patinoires des Canadiens, un impact impressionnant » dans la presse du 7 octobre.
Merci, Yvan. Alors, je vous lis un mot d'enfant que j'ai trouvé dans la presse plus récemment.
Oui, il y en a là-dedans, oui.
C'est Noah, 4 ans, qui aperçoit un pot de cacao sur le comptoir de la cuisine. Il demande à son papa, « Papa, qu'est-ce que c'est? » Et le père répond, « C'est du cacao, mais ça ne se mange pas comme ça tout seul, » répond le père. Et le garçon répond, « Eh bien alors, il faut manger avec des amis. » C'est Laurent Jalbert qui a envoyé ça. Je trouvais ça très drôle. Oui.
Moi, toujours dans mes sorties d'automne, je vous amène dans le Bas-Saint-Laurent, dans le parc Kiskotouk. Il va falloir que je me pratique, je devrais y aller en fait. Ici, on sortait un peu de la forêt pour contempler l'automne face au fleuve. Le parc Kiskotouk et ses 10 km de sentiers côtiers offrent des points de vue saisissants et inédits sur les îles et les marais du Bas-Saint-Laurent, sans oublier les couchers de soleil à tomber à la renverse.
Alors, je vous ai dit que le bal des citrouilles est commencé au jardin,
oui, depuis,
jardin botanique.
Dernière,
oui, notamment, ce qu'on peut voir là, c'est la représentation théâtrale d'un conte Pouah, bébé sorcière, écrit par Lucie Papineau et mis en scène par Jean-François Guilbeault. Alors, moi, j'aimerais vraiment beaucoup ça avoir des enfants dans mon entourage.
Oui, ça nous manque ça maintenant. Hein?
Oui. Selon Boris, qui a 7 ans, interdiction, ça veut dire cela touche exprès tout ce que les enfants ont envie de faire. Alors, on se revoit après la pause. On se retrouve après la pause. À tout à l'heure. Bonjour à nouveau, re-bienvenue au Voix de service magazine, deuxième partie. Yvan, on parle de quoi avec toi?
Moi, je reviens sur un thème que j'ai utilisé la semaine dernière. C'est l'infolettre qui nous vient de l'Association sportive des aveugles du Québec. Alors, je suis allé sur le site aussi de cette association-là et j'en ai tiré 3 nouvelles que je vais vous partager.
Okay.
Et en un deuxième temps, je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui a raté sa participation aux derniers Jeux olympiques et ça a eu des répercussions intéressantes et insoupçonnées.
Ah, intéressant. Et moi, je vous parle de l'importance de la vision dans les apprentissages. Et tout d'abord, en fait, je vais commencer par les risques de consommation du cannabis à l'adolescence. Voilà. Alors, on commence par les risques liés à la consommation de cannabis à l'adolescence. Et c'est des risques au niveau du développement cognitif. Alors, en ce temps où est-ce qu'on est pris, on sait que le cannabis va être légalisé au Canada dans les jours qui viennent.
Oui, dans moins d'une semaine.
Et donc, cette étude-là, ça a été publié sur le site UDM, donc Université de Montréal Nouvelle, le 28 septembre dernier. Et ça nous parle d'une étude qui a été menée par des chercheurs du CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal et qui confirme que la consommation de cannabis est liée à des effets négatifs et persistants sur les capacités cognitives des adolescents. C'est une nouvelle étude, ça a été publié dans l'American Journal of, le mot psychiatrie en anglais,
Oui.
Yvan, je te le donne.
Ah, oh, c'est pas psychiatry.
Merci beaucoup. Démontre qu'au-delà du rôle de la cognition dans la vulnérabilité de la toxicomanie, les effets concomitants et persistants de la consommation de cannabis chez les adolescents peuvent être observés sur des fonctions cognitives importantes et semblent être plus prononcés que ceux observés pour l'alcool. Outre ces effets intoxicants aigus, l'abus d'alcool et de cannabis a été associé à des altérations sur les plans de l'apprentissage, de la mémoire, de l'attention et de la prise de décision, ainsi qu'à de faibles résultats scolaires. Il y a Jean-François G. Morin, qui est co-auteur de l'étude et étudiant au doctorat de l'Université de Montréal, qui disait « Bien que de nombreuses études aient rapporté des différences de performance cognitive entre les jeunes consommateurs et les non-consommateurs, lui, il ajoute qu'il reste à déterminer les effets causaux et durables de l'usage de substances chez les adolescents sur leur développement cognitif. La professeure Patricia Conrod, qui est auteure principale de l'étude et chercheure au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal, mentionne que l'étude qu'ils viennent de faire ou sur laquelle ils viennent de publier, elle est unique car elle a suivi un large échantillon d'élèves de la première à la quatrième année du secondaire pour recueillir des mesures cognitives et sur la consommation de substances. Pour comprendre la relation entre l'alcool, la consommation de cannabis et le développement cognitif chez les adolescents de tous les niveaux de consommation, quand on parle des niveaux de consommation, on parle d'abord des abstinents, ensuite des consommateurs occasionnels ou des grands consommateurs. L'équipe de recherche a suivi un échantillon de 3826 adolescents canadiens sur une période de 4 ans. En utilisant un modèle statistique qui prend en compte le développement cognitif, les auteurs ont étudié les relations entre les changements d'une année à l'autre dans la consommation de substances et le développement parmi un certain nombre de domaines cognitifs, comme la mémoire de rappel, le raisonnement perceptuel, l'inhibition et la mémoire de travail. L'étude a montré que la vulnérabilité à la consommation de cannabis et d'alcool à l'adolescence était associée à une performance généralement inférieure dans tous les domaines cognitifs. Et le cannabis, c'est le fait marquant, se démarque de l'alcool. Une nouvelle augmentation dans la consommation de cannabis, mais pas dans la consommation d'alcool, a montré des effets concomitants et durables supplémentaires sur les fonctions cognitives comme le raisonnement perceptuel, la mémoire de rappel, la mémoire de travail et l'inhibition comportementale. Le fait que la consommation de cannabis ait été associée à des effets durables sur la mesure de l'inhibition comportementale, ça c'est un facteur de risque pour d'autres comportements toxicomanogènes, je m'excuse, est particulièrement préoccupant et pourrait expliquer pourquoi la consommation précoce de cannabis est un facteur de risque pour d'autres dépendances. Certains de ces effets sont encore plus prononcés lorsque la consommation débute précocement à l'adolescence, et c'est Jean-François G. Morin qui ajoute ça. Alors, dans un contexte où les politiques et les attitudes concernant l'usage de substances sont repensées, particulièrement maintenant, ces résultats mettent l'accent sur l'importance de protéger les jeunes des effets négatifs de la consommation en investissant davantage dans les programmes de prévention. Mm-hmm. C'est ce qu'on souhaite. Et on peut trouver ce texte sur le site de l'Université de Montréal. En fait, c'est UdeM Nouvelle et c'est daté du 28 septembre. Alors, Yvan, quelques conseils ou quelques nouvelles trouvées?
Oui, c'est des nouvelles dans ce cas ici.
Tu nous rappelles l'endroit où tu as trouvé ça?
Oui, à deux endroits. Premièrement, c'est l'infolettre qui s'appelle « Votre clin d'œil », octobre 2018. C'est l'infolettre de l'Association sportive des aveugles du Québec.
Ah oui.
Et en lisant cette infolettre-là, il y avait un hyperlien qui m'a amené à la page, au site de l'Association sportive, et j'ai trouvé une autre nouvelle que je voulais vous partager. Alors, je me lance.
Nous sommes tout oui.
Comment enseigner à des personnes vivant avec une déficience visuelle? L'Association sportive des aveugles du Québec offre une formation théorique et pratique aux entraîneurs, intervenants ou techniciens en loisirs qui auront à travailler avec une clientèle vivant avec une déficience visuelle. Cette formation dure 2 heures. J'étais surpris que ça dure que 2 heures. Et est destinée aux services municipaux, aux centres de loisirs et aux clubs de sport ou écoles. Qu'est-ce que le handicap visuel? Comment donner des directives à la clientèle? Comment la guider et lui offrir des conditions d'apprentissage gagnantes? Si vous êtes un entraîneur, un intervenant ou un technicien en loisirs, avec cette formation théorique et pratique de 2 heures, vous aurez la réponse à ces questions et serez outillé pour mieux adapter vos interventions. Alors, il y a 2 sessions qui s'en viennent très, très, très bientôt. En fait, il y en a une qui vient d'être donnée, là, c'était mardi dernier, le 9 octobre. Les 2 prochaines, c'est mercredi, le 17 octobre 2018, de 14h à 16h, au Stade olympique à Montréal, et vendredi, le 26 octobre, de 9h30 à 11h30, aussi au Stade olympique à Montréal. J'imagine que vous communiquez avec l'Association sportive des aveugles du Québec pour pouvoir vous inscrire et avoir les derniers détails. Dans un autre domaine, j'ai déjà parlé à ce micro-ci du programme du sport pour moi qui permet à des jeunes qui ont des difficultés visuelles de pouvoir s'initier à différents sports. Et là, on fait un sondage pour pouvoir offrir le programme du sport pour moi, mais du sport pour moi junior dans la région de Montréal et de la Rive-Sud. On vise les 13 à 18 ans. Cet hiver, les adolescents pourront choisir un sport qu'ils désireront pratiquer. Le programme sera disponible à Montréal et en Montérégie. Pour voter, il s'agit de faire l'hyperlien. C'est là l'hyperlien qui m'a amené au site. Nous invitons les adolescents de 13 à 18 ans de Montréal et des environs de la Montérégie à télécharger et remplir le sondage en cliquant sur l'hyperlien. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour voter. Le sondage fait suite aux demandes de parents d'adolescents ayant un handicap visuel concernant un programme sportif pour les plus vieux. Ce sondage a pour but de connaître l'intérêt des adolescents de 13 à 18 ans ayant un handicap visuel concernant la création d'un nouveau programme spécialement pour eux. Le programme inclurait 10 séances de 1h à 1h30 d'une activité sportive. Chaque session, les participants se perfectionneraient dans un sport qu'ils auraient choisi. Les réponses seront utilisées dans le seul but de créer le programme. Le questionnaire prend environ 10 minutes à remplir. Je vous dis seulement que la liste des activités sportives qui sont proposées, puis c'est ça, il faut choisir entre autres parmi celles-ci. Il y aurait l'athlétisme. On parle de course, lancer et saut. On parle d'aviron pour le printemps dans la région de la Chine. On parle de cheerleading. D'escalade, de goalball, on en a parlé la semaine dernière, du goalball, de judo, de kayak au printemps, de natation, de patin à glace, de ski de fond, de soccer, c'est 6 foot, de spinning, de tennis sonore, de yoga, et il y a même une possibilité pour autres préciser si vous voulez proposer d'autres activités physiques. Alors, c'est pour les 13 à 18 ans, c'est un sondage, puis on a jusqu'au 25 octobre pour voter.
Bon.
La dernière, c'est une bonne nouvelle pour les hiboux.
Les hiboux?
Oui. J'en ai déjà parlé il y a quelque temps, il y a peut-être un an. Les hiboux, c'est l'équipe de hockey pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Nous sommes fiers de vous annoncer qu'en avril dernier, 4 joueurs des hiboux de Montréal ont été nommés sur l'équipe canadienne de hockey sonore. Et les 12, 13 et 14 octobre, donc c'est demain, samedi et dimanche, ils participeront à la première confrontation Canada-États-Unis à Pittsburgh, aux États-Unis. N'oubliez pas que le club de hockey sonore Les Hiboux de Montréal a débuté sa 40e saison d'activité à l'aréna Francis Bouillon sur la rue de Rouen au 3175 près du métro Préfontaine. C'est tous les lundis à 20h. C'est là que se disputent les matchs d'une saison qui s'annonce encore une fois enlevante et sous le sceau de la camaraderie et de l'esprit sportif. Toutes les personnes handicapées visuelles qui savent patiner et veulent participer sont invitées à communiquer avec nous pour participer.
Alors, on les encourage, c'est 4 hiboux qui sont en
compétition sérieuse à Pittsburgh contre les États-Unis.
Merci, Yvan.
si l'humain persiste à croire qu'il possède une histoire, c'est qu'il ne sait pas encore qui le lui dira. Devant des écrans de rêve, nos vies se déforment, des milliards d'images, un piège dans un beau décor. Car quand les héros s'en mêlent, c'est un peu gênant. Nos visages veulent tout refléter, ce qu'il y a de grand. Dans un monde où tout est montré, tant qu'il y en aura, tout sonne fort.
Il en faut, par Alexandre Désilet.
Alexandre Désilet, que j'aime d'amour. Alors, saviez-vous que le mois d'octobre est le mois de la santé visuelle de l'enfant? J'ai appris ça, moi, en lisant ce texte que j'ai trouvé sur le site RIRE, le réseau d'information sur la réussite éducative. Et c'est Nathalie Couzon, Véronique Boudreau et Daniel Grimard qui ont écrit ce texte-là, qui parle de la vision qui est au cœur des apprentissages. Saviez-vous que le quart des enfants, parmi ceux âgés de 5 à 14 ans, souffrent d'un problème de vision? Alors ici, à l'instant, Siri voulait embarquer sur ma lecture, on s'est désolé. Bien souvent, ce problème passe inaperçu car les signes précurseurs d'un problème lié à la santé de l'œil restent difficiles à déceler. Or, la vision occupe une place prépondérante dans les apprentissages scolaires des enfants. Elle est en effet la principale modalité sensorielle, leur permettant d'accéder au monde qui les entoure, de le percevoir, de l'explorer et de le comprendre. La recherche démontre l'incidence du fonctionnement de la vision sur les apprentissages scolaires, dont près de 80% passent par l'intégration d'informations visuelles. Pourtant, au Québec, seulement 33% des enfants sont examinés par un optométriste avant leur entrée à l'école. Ainsi, nos établissements d'enseignement primaire accueillent de nombreux élèves qui souffrent d'un ou de plusieurs problèmes de vision susceptibles d'avoir des conséquences sur leur processus d'apprentissage. Dans sa stratégie pour les enfants de 0 à 8 ans, qui s'appelle « Tout pour nos enfants », le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur inscrit la vision des enfants au cœur de ses préoccupations en proposant un dépistage précoce des troubles de la vue réalisé directement à l'école pour les élèves de niveau préscolaire. Les problèmes de vision s'inscrivent sur un continuum qui va des troubles visuels légers à la malvoyance ou à la cécité. La déficience visuelle peut être causée par une anomalie génétique, d'origine congénitale ou développementale, être associée à une maladie ou encore apparaître à la suite d'un accident. Chez les enfants du préscolaire et du primaire, le travail en classe est très exigeant sur le plan visuel et peut engendrer des difficultés d'apprentissage qui étaient préalablement inexistantes. Chaque élève ayant une problématique visuelle est unique et présente des besoins spécifiques. Afin de l'accompagner tout au long de son cheminement scolaire, il est essentiel de connaître ses particularités et d'en tenir compte dans l'organisation des services éducatifs, dans l'adaptation des interventions pédagogiques et dans la planification de son parcours scolaire. Au mois d'octobre, alors c'est maintenant, des institutions publiques et privées mettent en place de nombreuses actions afin de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la santé oculo-visuelle des enfants. Par exemple, du dépistage des troubles de la vue, la collecte de lunettes, la diffusion de l'information relative aux maladies qui ont des répercussions sur la vue, une campagne de sensibilisation. D'ailleurs, dans le cadre de son programme Jeunesse Participe pour voir, la Fondation des maladies de l'œil tient chaque année une vingtaine de cliniques de dépistage des troubles de la vue dans autant d'écoles de la province situées en milieu défavorisé. En plus, pour faire face aux besoins importants en lunettes pour enfants, la Fondation des maladies de l'œil a conclu un partenariat avec les clubs Lions de la province. Toute famille en situation de pauvreté peut être référée au club Lions de sa région pour obtenir un certificat émis par la Fondation. Avec ce certificat, les enfants directement concernés peuvent se faire traiter dans une clinique d'optométrie participante et ils ont droit à une paire de lunettes gratuites. Alors, ce texte-là, je l'ai trouvé sur le site RIRE, R-I-R-E. C'est un texte de Nathalie Couzon, Véronique Boudreau et Daniel Grimard. Alors, Yvan, rater les Olympiques, ça peut devenir une opportunité, semble-t-il.
Ça peut ouvrir d'autres portes. C'est une série d'articles qui s'appelle « Sans filtre » où des athlètes nous parlent de leur cheminement sans filtre, effectivement. L'article, c'est « J'ai raté les Olympiques » et après, ça a été raconté par Rémi Pelletier-Roy, qui est cycliste. C'est des propos recueillis par Simon Drouin dans la presse. Je ne me souviens pas de tous les détails de l'accident parce que ma tête a tapé fort sur la piste. Il faisait du vélo sur piste, pas sur route. Je devais rouler à 60 à 70 km à l'heure à ce moment-là. Je pratiquais des sprints dans la roue d'un coéquipier. Mon pied est sorti de la sangle de la pédale et j'ai été projeté. Un vélo à pignon fixe, ça ne pardonne pas. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec une bonne commotion cérébrale. J'avais aussi une fracture de la clavicule. Ça tombait mal. Une semaine plus tard, je devais être à Cali, en Colombie, pour la première Coupe du monde de la saison. Ma blessure m'a empêché d'y aller. Avec seulement deux autres étapes à la Coupe du monde prévues au calendrier, mes chances de me qualifier pour les championnats du monde et les Jeux olympiques de Rio de 2016 prenaient une claque. Finalement, je n'ai pas réussi. Ce n'est pas la fin du monde, même si ce n'est pas un moment très agréable à vivre. Mon échec pourrait se résumer à ma fracture de la clavicule. C'est d'ailleurs sorti un peu comme ça dans les médias à l'époque. Ce n'était pas complètement faux, mais pas tout à fait vrai non plus. Dans une entrevue, j'étais resté en surface. Je ne voulais pas avoir l'air du gars qui cherchait à se justifier ou à trouver des excuses, ni celui qui blâme tout le monde sauf lui-même. Deux ans plus tard, je suis en mesure de faire mon propre bilan. Je ne dois rien à personne et ma mésaventure a eu des répercussions insoupçonnées dans mon parcours personnel et professionnel. Et là, dans la suite de l'article, il nous raconte son parcours sportif, les différentes compétitions auxquelles il a participé, le changement à un moment donné qu'il a fait entre la course sur route et la course sur piste. Et il nous amène vers un autre domaine. Je vais être honnête, mon échec à me qualifier pour les Jeux olympiques n'a pas été facile à digérer. Je n'avais que 25 ans, mais je savais que je n'aurais pas une deuxième chance. J'ai vécu une vive déception. Heureusement, ma copine et mes parents ont été là pour me soutenir durant cette période difficile. J'avais aussi un projet emballant devant moi. la reprise de mes études en médecine à l'Université Laval. Je les avais mises sur la glace pendant le processus de qualification olympique. Il était temps que j'y retourne. Ma mésaventure olympique m'a fait réfléchir. J'avais 2 ans avant l'obtention de mon diplôme et les demandes d'admission à la résidence. Je rêvais d'entrer en orthopédie, mais je savais que ce ne serait pas facile. Une 30aine d'étudiants soumettent leur candidature chaque année pour 6 places disponibles. En médecine, tout le monde est bon. Un peu comme en Coupe du monde, même le dernier n'est pas mal. Pour les Jeux, je ne m'étais pas trop informé du processus de sélection me fiant aux dirigeants. Pour la résidence en orthopédie, j'ai décidé de ne rien laisser au hasard. Le processus, je le connaissais par cœur, 2 ans à l'avance. Pour augmenter mes chances, j'ai fait des stages en Alberta et en Ontario. J'ai fait de la recherche. J'ai rencontré des gens pour me faire connaître. J'ai soigné mes relations. J'ai postulé dans les 17 programmes de résidence offerts au Canada et j'ai été convoqué pour 14 entrevues. Le 1er juillet dernier, j'ai reçu ma réponse. J'ai été l'un des 2 candidats choisis pour la résidence en orthopédie de l'Université de Montréal, mon tout premier choix. Honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu une telle émotion forte. C'est comme le frisson de gagner une course de vélo. L'histoire ne dit pas si toutes mes démarches ont pesé dans la balance. Plusieurs bons candidats auraient pu être de très bons résidents. Comme dans une course de vélo, le facteur chance entre en ligne de compte. Tu peux avoir une crevaison, un ennui mécanique, rater la bonne échappée. Mais je ne voulais pas avoir de regrets, j'ai contrôlé tout ce que je pouvais. J'aime penser que ça m'a bien servi. Ça donne aussi un sens à ma mésaventure olympique. Si j'étais allé à Rio, peut-être que je me serais cru un peu meilleur que je ne l'étais et que j'aurais surfé là-dessus. J'ai raté les Jeux olympiques et ce n'est pas la fin du monde. Je fais actuellement un stage à l'hôpital Sainte-Justine. Dans la nuit de lundi à mardi, j'ai opéré toute la nuit avec ma patronne, ma nouvelle coach. Ces temps-ci, je n'ai plus vraiment de temps de rouler, mais je suis encore ce que font mes amis à la poursuite par équipe. Ils sont bien meilleurs maintenant et continuent à s'améliorer. Ils ont des chances d'aller aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Moi, je soigne des gens et je suis heureux.
Oui, puis ça fait un orthopédiste de plus dans le système de santé au Québec.
Qui n'en a pas de trop.
Non, effectivement.
Alors, c'était dans la section sans filtre, « J'ai raté les Olympiques » et après, de Rémi Pelletier-Roy, cycliste.
Merci. Alors, je vous parle toujours du Grand Bal des Citrouilles qu'on peut visiter jusqu'au 31 octobre au Jardin botanique. Alors, saviez-vous que dans la Grande Serre, là où on peut voir en d'autres temps les papillons en liberté, il y a plein de citrouilles décorées. Le thème cette année, c'est « La nature qui nous habite ». Et l'élément central de l'expo, c'est la maison végétale de la sorcière Esmeralda, qui a confirmé sa présence et qui est là. Il y a un petit parcours qui est joliment éclairé, qui est actuellement en préparation. Alors j'espère, je ne suis pas allée, mais j'espère qu'on peut voir ça même de façon éclairée.
Moi, dans mes randonnées d'automne, je vous amène maintenant dans Charlevoix, à Baie-Sainte-Catherine. Située au confluent du Saguenay et du Saint-Laurent, la Baie-Sainte-Catherine est l'un des joyaux de Charlevoix.
Et c'est magnifique.
Oui, tout à fait. Et le passage des baleines en été fait place au spectacle des couleurs sur les massifs de la région dans une mosaïque de teintes automnales. Les sentiers de la municipalité sont montagneux et offrent des panoramas d'arrière-pays sur le fleuve majestueux.
Alors, toujours au Bal des Citrouilles, on peut abonner les enfants. La cour des petits monstres est l'occasion rêvée de relâcher les petits dans la nature comme Ansel et Gretel. Il y a des parcours qui ont été conçus pour leur amusement, des jeux de poche géantes, des courses de sacs de jute. L'éclairage de nuit promet même de les faire rêver. Des lampadaires en forme de citrouille seront suspendus dans les arbres. Parlant d'éclairage de nuit, on peut faire un tour dans les jardins de lumière, tout à côté, où se trouvent, eh oui, les fameuses lanternes du jardin chinois. Et on a, je le rappelle, jusqu'au 31 octobre pour visiter ça. Yvan?
Moi, de mon côté, je vous amène maintenant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au parc régional des Grandes Rivières. Après les sommets et le fleuve, c'est au tour du lac Saint-Jean de vous dévoiler ses merveilles d'arrière-saison. Chacun y trouvera son compte parmi les 7 secteurs du parc régional des Grandes Rivières. Le secteur Racine-Vauvert satisfera les amateurs de plage et de randonnée côtière, tandis que les secteurs de la Chute à l'Ours, de la Chute Blanche et Eau-Vive contenteront ceux qui aiment les remous sauvages de la Mistassibi.
Voilà. Écoutez, je vous laisse avec un mot d'enfant. Quartier de lune, c'est le morceau de lune quand la nuit a mangé le reste. Et c'est Éléonore qui a 5 ans et demi qui nous dit ça. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Merci d'avoir été à l'écoute.